Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le saviez-vous, en France, chaque année, parmi les centaines de milliers de tonnes de plastique qui sont produites, 80 000 finissent dans la nature. Une image de notre économie dite linéaire, où l'on extrait, produit, détruit, rejette et pollue. Beaucoup, beaucoup trop. Pour y couper court, existe un autre modèle, l'économie dite circulaire, une économie dans laquelle les déchets sont minimisés et réutilisés, soit pour faire bref, ou la boucle est bouclée. Pour favoriser cette économie dite circulaire, une loi vient d'être votée au Parlement français, l'occasion d'un coup de zoom et d'un coup de chapeau. Économie circulaire, ce que ça peut changer, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec nous, pour nous en parler, Rémi Lemoigne, vous êtes consultant, auteur d'un ouvrage intitulé « L'économie circulaire, stratégie pour un monde durable », paru aux éditions Dunod. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, et avec nous en plateau, donc Agathe Fraîche, vous êtes directrice d'une association qu'on va découvrir, un réseau d'associations qui est, voilà, on va dire pas pionnier, mais en tout cas qui fait partie des pionniers, des acteurs engagés sur ce sujet de l'économie circulaire. Bonjour, pardon.
Bonjour.
Et puis nous rejoindra un petit peu plus loin Marie Guillemeneau, qui est responsable d'un magasin qui s'appelle Ceci Cela de Vrac à Toulouse. Et puis on devait avoir un élu de la région, Bernard Gilabert, membre d'une commission biodiversité, économie circulaire et déchets, mais ce monsieur n'est pas là. Alors merci Rémi Lemoigne d'avoir accepté d'être interviewé ce matin et de passer un petit peu plus de temps avec nous. On va faire au début, on va partir de loin, on va faire de la pédagogie. Déjà pour commencer, Rémi Lemoigne, quand je présente l'économie circulaire comme une économie où on essaye de faire en sorte que la boucle soit bouclée et qu'il n'y ait pas un début et une fin et aucune connexion entre les deux, est-ce que c'est une bonne manière d'introduire le propos ?
Oui, d'abord merci beaucoup de m'avoir invité. Oui, c'est une bonne manière. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui le concept est assez nouveau et il existe des centaines de définitions sur l'économie circulaire, mais la vôtre convient parfaitement.
Alors lançons-nous. Aujourd'hui j'ai vu que dans l'économie française il y avait simplement 26,5% de ce qui était produit qui était recyclé. Est-ce que c'est un chiffre que vous confirmez, ou est-ce qu'on en est, on va dire, de cette boucle qu'on essaie de boucler? Quelle est l'ampleur du chantier, Rémi Lemoigne?
Alors il y a beaucoup de travail, parce que moi j'ai le chiffre au niveau mondial, on estime que c'est environ 10% des matériaux qui circulent dans notre économie qui sont recyclés, et le reste est utilisé une seule fois. Et ce chiffre, malheureusement, a plutôt tendance à décroître. Aujourd'hui, on prend plutôt les mauvaises directions, même si on connaît des solutions comme l'économie circulaire.
Alors, avant l'économie circulaire, il y a l'économie donc dite linéaire. J'ai essayé d'expliquer en introduction de manière très, très simple et peut-être grossière. L'économie linéaire, c'est donc l'économie classique, en tout cas celle qu'on connaît ou qu'on a connue. On extrait, on produit, on détruit, on rejette, on pollue. Il y aurait probablement bien d'autres étapes. Comment vous nous présenteriez cette économie circulaire qui peut-être sera l'économie un jour du Moyen-Âge ou des temps anciens?
Cette économie linéaire, vous voulez dire?
Économie linéaire, commençons par ce qui est vieux.
Très bien. Ça s'est fortement déployé lors de la révolution industrielle. Et en gros, le principe, on parlait tout à l'heure des bouteilles en plastique, si je prends l'exemple des bouteilles en plastique, eh bien, quand on regarde un peu cette économie de production d'une bouteille en plastique, vous devez d'abord aller extraire du pétrole du sol, transformer ce pétrole en plastique, transformer ce plastique en bouteille, et cette bouteille, souvent, elle va être utilisée que quelquefois juste 5 minutes, elle va terminer au mieux en incinération, et au pire, on va la retrouver dans les océans. Et le plus grave, est-ce qu'on n'en est pas toujours conscient, c'est que ce modèle économique également produit également beaucoup de, consomme beaucoup d'énergie et pollue beaucoup et met beaucoup de polluants, et en particulier beaucoup de gaz à effet de serre.
Allez-y, continue, je vous en prie.
Oui, et je vous donne un exemple de ce qui se passe pour une bouteille en plastique, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on consomme 1 million de bouteilles en plastique dans le monde par minute. Donc ce sont des chiffres qui sont exponentiels.
Et on comprend du coup, on y reviendra, pourquoi à l'occasion de l'examen du projet de loi sur l'économie circulaire qui a donc été définitivement voté le 30 janvier dernier, si je ne me trompe pas, la question de la consigne des bouteilles en plastique a fait autant couler d'encre ou a valu un certain nombre d'allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc 1 million de bouteilles de plastique produites par jour. Bon, c'est pas en France, mais on imagine que la France a quand même sa part.
Alors, 1 million par minute.
1 million par minute, pardon. 1 million par minute, oui, oui. Ça fait beaucoup. En effet, ça fait quand même une grande pyramide tous les jours. Alors l'économie circulaire, ça ne date pas. Comme toutes les bonnes idées, il faut du temps quand même pour qu'elle perce. À lire votre livre, ces pionniers datent des années 60. J'ai vu qu'il y avait un économiste, un certain Kenneth et Boulding, qui lui parlait de... son expression, c'était qu'il fallait passer de l'économie du cow-boy à l'économie du cosmonaute. Pourquoi cette expression?
Oui. Parce que... Un cosmonaute, il vit dans sa navette spatiale et il est dans un monde un peu clos et donc il doit utiliser ses ressources, réutiliser toutes les ressources dont il dispose pour pouvoir vivre finalement. Et donc c'est pour ça qu'il a utilisé cette expression versus le cow-boy qui lui consomme en pensant que les ressources naturelles sont infinies et qui produit des déchets sans y faire attention.
Alors juste, Rémi Lemoyne, si on se dit que toutes les bonnes idées mettent du temps à percer, hein, mais la révolution, on va dire, écologique qui est en cours, il y avait aussi des pionniers après presque la Seconde Guerre mondiale. Expliquez-nous un peu la genèse de cette économie circulaire. Quand est-ce que la bascule a commencé à se faire? Est-ce encore une idée sur laquelle il faut convaincre?
Alors, en fait, quand on regarde un peu l'histoire, et quand on regarde l'histoire de la Terre, au tout début, la Terre, elle était éminemment circulaire. Avant que les hommes arrivent, il y avait zéro déchet. Quand on était dans une forêt, eh bien, les matières organiques faisaient des boucles infinies. Les feuilles tombaient sur le sol, ça nourrissait la Terre, ça faisait grandir les arbres, qui eux-mêmes nourrissaient les oiseaux. Et pendant très longtemps, les premières économies humaines avaient également une économie très circulaire, dans le sens où il n'y avait pas d'emballage à usage unique, c'était des amphores, c'était des outils qu'on se passait de génération en génération. Donc pendant très longtemps, on a finalement eu un modèle d'économie circulaire, et c'est l'avènement un peu de l'énergie bon marché, avec le charbon d'abord et le pétrole ensuite, qui a fait qu'on a commencé à basculer vers cette économie linéaire, et à voir un peu les impacts que ça a eu. Et en gros, on peut dire, comme vous disiez, depuis les années 60, les économistes, les architectes, des chercheurs cherchent des solutions pour corriger cette économie linéaire au travers de différentes initiatives. La plus connue est sans doute celle de ce qu'on appelle la fondation Ellen MacArthur. Ellen MacArthur, c'est cette navigatrice anglaise le tour du monde en navire, qui a créé une fondation qui fait la promotion de l'économie circulaire et qui aujourd'hui a beaucoup contribué à faire connaître ce nouveau modèle économique.
Alors, s'il y a eu une bascule ou une prise de conscience sur le sujet, vous la dateriez quoi des années 80, 90, 2000 ou même encore plus tard?
Auprès des personnes comme vous et moi, c'est tout récent en fait, il y a à peine quelques années.
Voilà, donc on est en plein dans le sujet. Alors, si on continue à parcourir votre ouvrage, vous prenez le temps donc d'expliquer quels sont les cycles techniques et biologiques de cette économie dite circulaire, et puis vous prenez un certain nombre d'exemples. Commençons par le cycle technique. Expliquez-nous ce que ça change, par exemple pour l'industrie automobile, d'être dans une logique d'économie circulaire plutôt que d'économie linéaire. Vous citez entre autres un exemple, vous dites que l'usine la plus rentable de Renault, alors peut-être est-ce juste l'usine française, vous allez nous dire, est celle de Choisy-le-Roi, qui démonte, nettoie, contrôle, remonte, etc., ses moteurs et boîtes de vitesse, et qu'au final, ça coûte moins cher même à Renault. Alors quels sont les principes, et pouvez-vous nous trouver quelques illustrations en commençant par le cycle technique, comme vous dites?
Bien sûr. L'exemple que vous évoquiez, c'est ce qu'on appelle le reconditionnement ou le remanufacturing, qui existe d'ailleurs chez Renault depuis les années 50, je crois. Donc c'est quelque chose d'assez ancien. Mais il y a effectivement d'autres boucles. Et si on reste sur l'industrie automobile, La première, c'est de la maintenance. Eh bien, si vous avez un véhicule, eh bien, c'est de l'entretenir le plus régulièrement possible pour que sa durée de vie soit la plus longue possible. Vous pouvez également avoir ce qu'on appelle la réutilisation. C'est une fois que vous n'avez plus besoin de votre voiture, plutôt que de la mettre à la casse, eh bien, c'est d'essayer de ce qu'elle soit réutilisée par quelqu'un d'autre. Et là, on le voit, les plateformes comme Le Bon Coin ou d'autres sont de gros vecteurs de ce type de distribution. Il y a ce que vous avez évoqué, c'est donc le remanufacturing, c'est la remise à neuf des moteurs ou maintenant des pièces détachées. Et enfin, la dernière boucle des produits techniques, c'est si jamais votre produit est trop vieux ou vous êtes incapable de le remettre en état, eh bien vous pouvez au moins récupérer la valeur des matières dont il est composé et le recycler.
Alors c'est vous.
Dans un véhicule, il y a beaucoup de
Vous preniez l'exemple
beaucoup de matières avec trop de valeur.
de l'usine Renault. Est-ce que vous pouvez creuser cet exemple de cette usine de Choisy-le-Roi? Pourquoi est-ce que vous dites que c'est la plus rentable de chez Renault? Et est-ce qu'on a des chiffres?
Oui, alors. C'est Renault qui dit d'ailleurs hein, que c'est leur usine la plus rentable. Et la raison, elle est assez simple, c'est que quand vous fabriquez un moteur neuf, vous devez faire toute la chaîne de l'économie linéaire, ça veut dire aller extraire des métaux, des minerais, les extraire de ces minerais le fer, fondre le fer pour en faire des blocs moteurs, les assembler et transporter. Donc c'est une très longue chaîne de production. Quand vous remettez à neuf un moteur, ce qui consiste, comme vous l'avez dit, à démonter entièrement, à le nettoyer et à le remonter entièrement, les étapes de production sont plus courtes et également, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des matières premières, parce que les matières, vous avez déjà un produit qu'il faut remettre en état. Et donc, on estime que de remettre à neuf un moteur, ça permet de diminuer les coûts de production entre 30 et 40% par rapport à un moteur neuf pour des caractéristiques de produit final identiques.
Donc
Donc, c'est un formidable de modèle.
vous pouvez reciter le chiffre, pardon, parce qu'on vous entend en fait, hélas, moyennement. Redites-nous le chiffre, ou alors j'étais pas attentif.
Ah, pardon. C'est entre 30 et 40% de coûts en moins quand vous remettez à neuf un moteur versus quand vous en fabriquez un nouveau.
Alors avant qu'on fasse une première pause musicale, Rémi Lemoigne, dans votre livre, vous parlez donc vous dites que c'est un modèle qui est triplement gagnant. Je vois Agathe Fraîche qui a le sourire qui grandit au fur et à mesure. Elle se reconnaîtra dans ses trois piliers et puis cette réalité donc pour l'association Envie. C'est le bénéfice donc économique, social et environnemental. Expliquez-nous ces trois piliers de l'économie circulaire.
Alors, le premier bénéfice environnemental, il est assez évident. Donc, c'est en mettant en œuvre l'économie circulaire, vous consommez moins de matières premières, vous produisez moins de déchets, mais également, vous avez moins d'étapes de production, donc vous émettez moins de polluants, de CO2, vous consommez moins d'eau, d'énergie, etc. Ça, c'est le premier bénéfice qui est majeur. Le deuxième, c'est que dans bien des cas, vous avez des bénéfices économiques. Vous avez donné l'exemple de Renault, mais il y en a beaucoup d'autres. Des fabricants d'imprimantes, par exemple, ou de mobilier de bureau, qui arrivent à gagner plus d'argent, finalement, en revendant plusieurs fois leurs mêmes produits. Et puis, troisième bénéfice, qu'on évoque souvent encore assez peu, et heureusement que la Fédération qui est là pour le démontrer, eh bien, c'est que l'économie circulaire, finalement, elle nécessite moins de matières premières. Par contre, elle nécessite plus de ressources humaines pour, par exemple, remettre à neuf un moteur hein, ou réparer une machine à laver ou remettre en état un téléphone portable. Donc, ça consomme moins de ressources matières et ça consomme plus de ressources travail humaines. Et
Et
donc,
est-ce qu'on
ça
a
crée de l'emploi.
un chiffre à l'économie, enfin à la clé d'une généralisation de l'économie circulaire, si on peut faire ce type de projection, ça serait combien de milliers d'emplois, ne serait-ce qu'en France?
Alors, malheureusement, les chiffres sont très variables et donc on n'a pas une vision très claire. Mais si vous prenez l'exemple de l'usine de Renault, c'est quand même 300 emplois qui est 300 employés dans cette usine, qui sont créés grâce à l'économie circulaire.
Il y a un chiffre en tout cas que vous donnez dans votre livre. Vous dites que l'économie circulaire à l'échelle internationale, si j'ai bien compris, c'est à terme donc une réduction, si on l'a généralisé, une réduction de CO2 possible de 25% à l'horizon 2030 et de 56% à l'horizon 2050, à l'heure où l'Europe lance son grand plan vert avec des ambitions à peu près similaires. On voit l'opportunité de ce type d'économie. On va faire une première pause et on va vous retrouver nos différents invités. Je rappelle le titre de votre livre, Rémi Lemoigne, pour l'économie circulaire, stratégie pour un monde durable, paru aux éditions Dunod.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Économie circulaire, ce que ça peut changer, c'est donc pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec nous. Pour ceux qui nous rejoindraient, Rémi Lemoigne, consultant, auteur de d'un ouvrage intitulé L'économie circulaire, stratégie pour un monde durable, paru aux éditions Dunod. Agathe Fraîche, qui est directrice de l'association Envie Toulouse, et nous rejoindra un petit peu plus tard Marie-Guy Menot, qui est responsable d'un magasin à Toulouse, Ceci et Cela. Allez quand même, Envie, présentez-nous en deux, trois mots avant qu'on se penche sur le projet de loi. Est-ce que j'ai cité plusieurs fois le nom de votre association. Je vous voyais faire des grands signes et un sourire à écouter Rémi Lemoigne en première partie. En quelques mots, et quel est le principe de cette association?
Oui, alors je vous remercie pour cette invitation. Donc, Envie, c'est un réseau qui existe depuis 1984 et dont la mission, en fait, est de collecter, valoriser et réemployer des déchets d'équipements électroniques et électroniques, donc ce qu'on appelle les D3E. Donc on est un ensemble d'associations, il y en a une cinquantaine en France, qui ont donc pour mission de favoriser l'accès au monde du travail pour des personnes qui sont en rupture avec l'emploi. Donc c'est un réseau d'insertion avec comme support en fait la collecte de ces déchets. Donc j'écoutais tout à l'heure Monsieur Lemoine qui parlait beaucoup de déchets d'économie circulaire. C'est vrai que pour nous, un déchet, c'est plutôt une ressource. C'est, je pense, un des principes de base donc, de l'économie circulaire, c'est de se dire qu'en fait, il n'y a pas de déchets et que tous ces produits peuvent être revalorisés. Donc, chez nous, il y a deux types de valorisation, soit le réemploi. Donc, c'est-à-dire qu'on prend une machine à laver, on va la réparer, on va la nettoyer, on va changer les pièces d'usure afin de lui donner une deuxième vie. Et on va les vendre, du coup, à un prix réduit pour que des personnes...
Moins de 60%, enfin, on ne va pas tout déflorer.
Voilà, on est sur des tarifs donc, à peu près à 50%. De l'équivalent du prix du neuf. L'objectif, c'est que tout le monde puisse s'équiper et qu'on limite la production de déchets. Donc ça, c'est le réemploi. Et après, il existe donc, ce qu'on appelle la valorisation matière. Donc tous ces appareils qui ne pourraient pas être rénovés, on va les démanteler et on va valoriser les matières premières pour pouvoir après remettre dans le circuit et dans les filières ces matières premières.
Alors, on y reviendra. Merci de ce coup de zoom. On verra aussi comment vous, peut-être à titre personnel, vous en êtes arrivé là. Il y a donc un projet de loi qui a été voté probablement pour soutenir le secteur que vous représentez aujourd'hui. Ce projet de loi, donc je l'ai dit, a été voté par le Parlement français, donc c'était le 30 janvier dernier. Il y a beaucoup de choses dedans. Rémi Lemoine, on a beaucoup parlé du plastique. Peut-être qu'on y reviendra. J'aimerais qu'on commence par un des premiers volets de ce projet de loi, qui est l'information aux consommateurs. Je pense que beaucoup d'entre nous se sont sentis parfois piégés ou arrivent parfois dans les magasins maintenant avec beaucoup de warning intérieur, comme on dit. Demain, j'ai cru comprendre qu'on pourrait avoir des indices de réparabilité sur un certain nombre de matériaux qu'on achète, même des compteurs, ai-je vu, sur nos machines à laver, nos frigos ou même nos tondeuses pour voir quel est leur nombre de miles. Quid du volet information du consommateur de ce projet de loi, Rémi Lemoine?
Je pense que c'est l'une des avancées les plus importantes parce que aujourd'hui, quand les consommateurs s'achètent un produit électronique, par exemple, ils ont du mal à savoir si c'est un produit qu'ils vont pouvoir garder un an ou qu'ils vont pouvoir garder cinq ans. Et sans savoir, la durée de vie de l'équipement aura un impact très important sur son coût total et donc sur le budget du consommateur. Et donc l'idée, c'est l'une des idées du projet de loi, c'est en effet d'afficher un indice de réparabilité qui mettra quelque part une bonne ou une mauvaise note en fonction si l'équipement est électrique ou électronique est facilement réparable ou non. Et dans ce domaine-là, il y a de très grandes différences entre les différents produits qui existent sur le marché.
Donc ça sera l'indice de réparabilité qui viendra lever la suspicion d'un indice d'obsolescence programmée, c'est ça? Parce que c'est quand même souvent ce qu'on a en tête. Est-ce que c'est la réponse du berger à la bergère?
Oui, c'est ça. Oui, c'est... Et c'est surtout, il y a beaucoup d'équipements où il n'y a pas d'obsolescence programmée, mais où on s'aperçoit, même des téléphones très haut de gamme, dont je ne citerai pas la marque, mais qui sont en fait très difficiles à réparer, par exemple pour remplacer la batterie, alors que d'autres le sont beaucoup plus. Et donc c'est important qu'on le sache à l'avance pour que l'on puisse prolonger la durée de vie de l'équipement plus longtemps.
Alors, autre point, c'est la lutte contre le gaspillage. Ça peut paraître fastidieux pour les auditeurs, pardon, pour ceux qui ne seraient pas passionnés par le sujet, mais Dieu sait si ça semble important. Et mon petit doigt me dit que d'autres suivent ça pied à pied. La lutte contre le gaspillage, il y avait eu une loi en France, déjà, sur le gaspillage alimentaire. La France était pionnière en la matière. Hein. C'est une loi, je crois, de 2016, si je ne me trompe pas. Ce gaspillage est étendu aux biens non alimentaires, ai-je compris? Expliquez-nous.
Oui, c'est que aujourd'hui, dans les points de vente, quand ils ont par exemple des vêtements qu'ils n'arrivent plus à vendre, eh bien, pas toujours, mais souvent, ils brûlent ces vêtements pour qu'ils ne soient pas récupérés et puis réutilisés gratuitement. Eh bien, cela, demain, ça sera interdit parce que c'est quand on y réfléchit, c'est un énorme gâchis, c'est-à-dire qu'on a eu cette économie linéaire qui a consommé énormément de ressources pour fabriquer des produits finis, et que ces produits finis ne soient pas utilisés, même pas une seule fois, et qu'on les traite comme des déchets dès le début. Donc l'idée, c'est d'empêcher le secteur de la distribution de détruire des produits de consommation qui peuvent être réutilisés par d'autres consommateurs.
Alors aujourd'hui, j'ai cru comprendre que c'était limité aux vêtements, aux chaussures, aux produits de beauté. A priori, donc, est interdit la destruction sur ces sujets. Est-ce qu'on peut imaginer que... pour l'instant, ça n'est pas le cas pour d'autres biens, justement, ceux peut-être de l'association Envie. On pense à tous les produits ménagers, enfin tous les outils qui nous servent dans notre quotidien, que ce soit la machine à laver, le frigo, etc. Quid de ce sujet, j'imagine qu'on jette pas les frigos quand même quand ils sont un petit peu vieux.
Aujourd'hui, il y a déjà pour ces équipements qui ont une valeur quand même plus élevée, il y a déjà une économie pour valoriser ces produits-là. Et donc souvent, par exemple, pour un distributeur de machines à laver, s'il a effectivement un stock de machines à laver qu'il n'arrive plus à vendre, il existe des canaux de distribution comme des sites internet de vente à bas coût ou de déstockage qui permettent d'écouler ces stocks-là. Donc la loi, elle s'est plutôt concentrée sur des produits sur lesquels aujourd'hui il n'existe pas de filière de revente ou de redistribution.
Alors, il y a le plastique aussi, on y reviendra, parce que c'est un volet important. Avant qu'on arrive au plastique, j'aimerais qu'on parle d'un autre point de ce projet de loi. C'est donc la responsabilité des producteurs. On enfonce le clou sur le principe du pollueur-payeur. Qu'est-ce que ça veut dire, Rémi Lemoigne ?
C'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez on parlait tout à l'heure d'une bouteille pour boire un soda ou de l'eau, quand vous jetez cette bouteille, l'organisation qui paye le traitement de ce déchet-là n'est pas du tout celui qui a produit la bouteille au début. Donc toute l'idée, c'est de dire, si jamais vous mettez sur le marché un produit, mais quand ce produit arrivera en fin de vie, c'est vous qui devrez participer ou contribuer fortement à la gestion de fin de vie qui a souvent un coût de plus en plus élevé.
Alors, ça veut dire quoi concrètement, un producteur de canettes dont on ne citera pas la marque, on va pas avoir charge d'aller récupérer toutes les canettes dans la poubelle, on imagine. Ça veut dire que par principe, en fait, il y a une participation financière qui va être imposée aux grandes marques, pour prendre celle-là, à ce recyclage d'une certaine manière.
Oui, tout à fait. Alors, il y a différents modèles, mais le modèle le plus courant, c'est qu'en effet, c'est... ces fabricants se regroupent ensemble au sein de ce qui s'appelle les éco-organismes, comme par exemple Citeo, qui est le plus connu pour les emballages. Et chaque fois qu'ils vendent une canette ou une bouteille ou une brique, ils vous font payer au consommateur quelques centimes ou des fois souvent moins. Et cet argent est consolidé et il est redonné, reversé, en particulier par exemple aux collectivités locales qui sont en charge de la collecte et du traitement de ces déchets.
Agathe Frey, je voulais y intervenir.
Oui, tout à fait. Pour expliquer, nous, dans notre secteur, donc c'est le même principe. Hein. À partir de 2006, il y a eu une directive européenne qui a consolidé en fait notre filière. C'est pour ça que c'est important que les pouvoirs publics aient ce rôle de structurer les filières. Ça a permis la naissance des éco-organismes. Donc nous, on travaille notamment avec Ecosystem, qui est l'éco-organisme qui regroupe tous les producteurs et tous les metteurs en marché d'équipements électroménagers. Et c'est eux qui vont coordonner en fait le circuit après de valorisation de ces déchets et de collecte de ces déchets. Donc quand vous achetez,
si vous deviez prendre un exemple,
alors très concrètement, vous achetez un électroménager, vous avez une éco-contribution. Donc vous avez toujours quelques centimes, quelques euros qui sont affichés sur l'étiquette. Cette éco-contribution, alors souvent on entend parler d'éco-taxe, il faut vraiment que les gens considèrent que c'est une contribution au traitement des déchets. Donc c'est une manne financière en fait.
C'est quoi, c'est quelques centimes?
Ça peut être quelques centimes à 1 ou 2 euros suivant le type d'appareil. Donc ça, c'est collecté par les éco-organismes qui après font appel à différents acteurs pour collecter, valoriser ou réemployer les déchets.
Donc dans votre secteur, c'est déjà systématisé?
Alors dans le secteur de l'électroménager, c'est obligatoire et il y a des objectifs de collecte de ces déchets. En gros, on considère que dès lors qu'un metteur en marché met un appareil sur le marché, il faut qu'il participe au financement de la collecte et du traitement d'un appareil. Alors, on n'y est pas aujourd'hui. Hein, il y a un objectif d'atteindre 45% de financement, en fait, de collecte de ces électroménagers. On est encore loin des 100%. Là, on est quasiment à 45%, mais on est quand même loin des 100%. Donc, ça veut dire que les autres appareils sont pas réintégrés dans la filière de recyclage.
Parce que parfois, on les garde chez soi aussi, il faut dire
les
choses. Hein,
on les garde chez soi, mais à un moment donné,
pas le frigo et la machine à laver, c'est vrai.
Vous allez quand même les amener à un moment donné dans une déchetterie ou bien chez un distributeur. Hein. Quand vous achetez un électroménager, le distributeur est obligé de vous proposer la reprise de votre ancien électroménager. Donc ça va aller dans la filière du recyclage. Donc nous, très concrètement, on va collecter chez les distributeurs. Donc, pour citer Darty, par exemple, on va les collecter chez Darty. Et tous les appareils qui ont été récupérés lors d'une vente, nous, on va les récupérer, on va les trier, on va voir ce qu'on peut réparer. Ce qu'on ne peut pas réparer, on les mettra sur la filière du traitement du déchet et de la matière.
Alors, venons au plastique. Hein. Je ne vous coupe pas la parole, mais je vois le temps qui passe. Ça a été un sujet donc important et on le comprend, puisque vous citiez ce chiffre, 1 million de bouteilles de plastique qui sont produites par minute dans le monde. C'est bien ça, hein, Rémi Lemoigne, j'ai bien entendu ?
Oui, tout à fait.
Voilà, 1 million donc par minute, ça fait quand même, j'ai pas le temps de faire le calcul, mais ça fait quand même beaucoup. Il y a des choses donc qui vont changer. Alors, je vais commencer par des choses qui peuvent paraître anecdotiques, mais à partir du 1er janvier 2022, on ne pourra plus expédier des journaux ou magazines sous emballage plastique. Les sachets de thé en plastique, les emballages en plastique pour les fruits et légumes de moins de 1,5 kg, les jouets en plastique distribués gratuitement dans les fast-foods seront interdits. Les étiquettes même sur les fruits et légumes seront interdites. L'objectif, c'est de passer à 100% de plastique recyclé d'ici au 1er janvier 2025. C'est quoi ? C'est un coup de canon dans le ciel, Rémi Lemoigne, sur le plastique, ces annonces, ces décisions même ?
Je crois d'abord que c'est lié à une vraie crainte du consommateur. Dans les récentes études consommateurs qui sont faites, il y a un vrai rejet du plastique par les consommateurs, à la fois sur les aspects déchets qui sont générés, mais aussi d'un point de vue sanitaire, parce que de plus en plus, on est en train de dire que le plastique se mélange quelquefois avec les aliments. Donc, c'est effectivement l'un des points forts de cette loi, c'est de s'attaquer au plastique. Et surtout, même si l'objectif paraît lointain, c'est de vouloir interdire tous les plastiques à usage unique d'ici 2040. Et ça paraît loin, mais c'est quand même un objectif qui, dans le fond, est ambitieux quand on regarde de où on part.
Alors, il y a eu un certain nombre de détracteurs. J'en cite un. C'est un personnage qui a l'air d'être un peu équivoque, mais c'est Arash Derambarch, qui est donc élu de Courbevoie, si je ne me trompe pas, en région parisienne, qui a fait partie de ceux qui ont poussé à la première loi contre le gaspillage alimentaire en 2016, même s'il s'en revendique la paternité de manière probablement exagérée. Bref, il expliquait que dans certains pays, on a pu lire ça dans les médias, cette transition, on l'a fait en un ou deux ans, et que là, ça pouvait être incompréhensible qu'on fixe un horizon, des horizons aussi éloignés que 2025, donc pour passer à 100% de plastique recyclé et à une interdiction des emballages en plastique en 2040. C'est vrai que 2040, ça laisse le temps d'en faire un certain nombre encore d'emballages en plastique. Quid de ces critiques, Rémi Lemoigne ?
En fait, quand on regarde, et ça on n'en parle pas assez, mais aujourd'hui, on a beaucoup de mal à trouver des alternatives au plastique qui sont, d'un point de vue environnemental, bien meilleures. Je vais vous donner un exemple. Souvent, on dit, mais on va remplacer le plastique par du papier et les emballages en papier ou en carton. Et le papier ou le carton, c'est effectivement pour la pollution des océans, c'est beaucoup mieux. Par contre, d'un point de vue émission de CO2, qui est quand même l'un de nos grains, qu'un risque qu'elle en exposait, ou consommation d'eau, c'est beaucoup moins bien. Donc en fait, la difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est que on a du mal à trouver des solutions alternatives. Elles émergent depuis quelques années, mais on aura besoin d'un peu de temps pour qu'elles arrivent à un niveau industriel.
Alors, dernière question, Rémi Lemoigne. On profite de votre présence et vous allez nous quitter pendant la deuxième pause musicale. Quid de la consigne ? On a lu beaucoup de choses dans la presse. Alors, au final, va-t-il y avoir des consignes autour des bouteilles en plastique ? Et si oui, quelle forme ça va prendre ?
Alors, Pour l'instant, non. Alors, il y avait en effet un débat parce que aujourd'hui, le recyclage en France des bouteilles en plastique est de 60%, ce qui est assez faible. Alors que dans d'autres pays, comme l'Allemagne, on a un taux de recyclage des bouteilles en plastique qui est de 90%. Et la réussite principale, c'est que ces bouteilles sont consignées pour le recyclage. Ça veut dire que chaque fois que vous achetez une bouteille de soda, eh bien, vous devez aller la retourner dans un point de vente pour que vous soyez remboursé de quelques centimes et que cette bouteille soit recyclée.
Alors, si l'Allemagne le fait, pourquoi la France ne l'a-t-elle pas fait?
Alors, il y a plusieurs raisons. La principale, c'est que, vous savez, quand chez vous, vous avez votre poubelle où vous mettez les produits, les emballages à recycler, l'emballage qui a le plus de valeur, c'est clairement cette bouteille en plastique. Ça a beaucoup plus de valeur que tous les autres déchets, les sachets en carton ou les sachets dans d'autres plastiques. Et donc, les municipalités qui, elles, sont chargées de collecter ces poubelles de déchets recyclables, elles revendent vos déchets pour gagner de l'argent. Et là où elles peuvent gagner un peu d'argent, c'est justement sur les bouteilles en plastique. Donc, si demain, ces bouteilles en plastique suivent un autre flux, eh bien, les collectivités auront beaucoup moins de moyens de financement. Et c'est ça qui leur a fait peur. Et l'autre raison également, c'est que ça amène à mettre un peu deux flux de collecte, l'un qui est la poubelle jaune que vous avez chez vous pour certains déchets, et puis l'autre, de mettre un autre flux de collecte dans les points de vente pour le recyclage spécifique des bouteilles en plastique. Pour le savoir, on parle souvent des bouteilles en plastique comme emballage, mais ça ne représente que 2% des emballages en plastique. Il y a énormément d'autres emballages en plastique dont on parle beaucoup moins, qu'on voit beaucoup moins, mais qui font autant de dégâts que les simples bouteilles en plastique.
Eh ben, merci beaucoup Rémi Lemoigne d'avoir été présent ce matin et puis de nous avoir un peu sauvé la mise dans la présence donc de Bernard Gilabert, élu de la région Occitanie, entre autres membre d'une commission énergie, biodiversité, économie circulaire et déchets. Merci à vous. On va faire une deuxième pause musicale et puis on va retrouver nos invités, des acteurs. Agathe Fraîche, on a déjà commencé à découvrir l'association Envie. On va le faire un petit peu plus et puis parler un petit peu de votre parcours. Et Marie-Guy Menot, responsable d'un magasin pour ce magasin Ceci et Cela, magasin de vrac.
Thank you.
Radio Présence à Millau, 106.5. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Économie circulaire, ce que ça peut changer, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Il était avec nous au début de cette émission, enfin une bonne partie pardon, de cette émission, Rémi Lemoigne. Pour ceux qui nous rejoindraient, je rappelle, consultant, auteur d'un ouvrage intitulé L'économie circulaire, paru aux éditions d'Uno. Avec nous en cette fin d'émission, toujours Agathe Fraîche, directrice de l'association Envie, et nous a rejoint Marie Guillemeneau. Vous êtes responsable d'un magasin, Ceci et Cela. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir pris un petit peu de temps sur votre matinée de travail pour être présente. Alors vous avez un aficionado en plateau, Agathe Fraîche m'a même suggéré une question de lancement. Ceci et cela, ce sont des boutiques où on vient acheter en vrac. Vous allez nous expliquer pour ceux qui par hasard ne connaîtraient pas. Mais Agathe Fraîche me laissait entendre que les grands-mères qui nous écoutent, il y en a quelques-unes, devaient tout à fait comprendre ce que c'était, parce qu'avant on venait avec son cabas quand on allait dans un magasin et même dans une boulangerie. Est-ce que vous avez décidé de ressortir les cabas? Est-ce que c'est le principe de ceci et cela, Marie Guillemeneau?
Alors oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est drôle que vous dites ça. On a pas mal de petites grand-mères d'ailleurs qui viennent faire leurs courses dans la boutique, donc ça me touche que vous ayez dit ça. Alors en fait, ceci et cela, c'est une boutique où en fait les clients peuvent venir acheter leurs courses en vrac. Ils peuvent venir donc avec leur contenant. On pèse avant les poids des pots, des bouteilles des clients et après les gens font leurs courses sans emballage en fait. Et nous on vend tout dans des distributeurs, dans des silos. On vend surtout des produits bio et surtout locaux.
Voilà, donc du vrac, du local, du bio, c'est ce qu'on peut lire. Vous avez même un autre slogan, l'épicerie qui vous emballe. L'idée paraît quand même toute simple. Vous me direz, il faut l'avoir et la mettre en œuvre, hein, c'est le principe de l'entrepreneuriat. Pourquoi vous est venue cette idée? Est-ce que dans le fond, la question des emballages, ça vous a traumatisé?
Alors, c'est surtout ma collègue Louise Cardona qui a créé l'entreprise, qui en fait, à la sortie de ses études... s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des emballages partout et que nous, à notre échelle, on pouvait essayer de proposer une alternative, de faire les courses autrement. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans la boutique.
J'ai cru comprendre qu'elle, c'était à l'occasion d'un voyage à l'étranger, non? Qu'elle avait été frappée.
En Turquie, oui, tout à fait.
Vous pouvez raconter l'histoire, peut-être?
Elle a fini son master en Turquie et là-bas, elle s'est rendue compte qu'il y avait vraiment beaucoup d'emballages partout, inutiles, beaucoup de plastique. Et à son retour en France, elle s'est dit, voilà, moi, je peux faire quelque chose à mon échelle, je peux faire quelque chose en rentrant à Toulouse. Et il y avait une vraie demande, il y avait un vrai besoin. Nous, quand on est arrivé, on a tout de suite eu une clientèle qui attendait ça, en fait.
Alors, vous organisez des conférences, il y a des conférences zéro déchet dans vos boutiques, des ateliers de formation do it yourself, faites-le par vous-même. Vous posez une question sur votre site internet, puisque j'ai pas pu aller dans votre boutique. Alors, je vous la pose, comment est-ce qu'on fait quand on a envie d'acheter autre chose que des fruits et légumes ou des amandes, par exemple de l'huile ou du vinaigre? On vient avec sa bouteille?
C'est vraiment tout simple, on vient avec sa bouteille. Et nous, après, on vous remplit en fait votre bouteille. À la contenance de votre bouteille, vous prenez que ce dont vous avez besoin. Et on a voilà tous les produits de base. Après, on est des petites boutiques, hein, donc on est des petites épiceries de quartier. Il n'y a pas 10 sortes d'huile. On a les basiques, on a l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de tournesol, quelques vinaigres. Et voilà, vous prenez que ce dont vous avez besoin.
Alors, quid du succès de vos boutiques? Vous disiez que vous aviez pas mal de petites grand-mères du quartier. Vous avez ouvert un deuxième magasin à Toulouse. On imagine que vous n'êtes pas la seule marque aussi ou la seule entreprise à proposer ça. Racontez-nous un peu le succès.
Alors nous, on était les premiers il y a 4 ans à ouvrir notre boutique au Capitole. Et puis on a ouvert une boutique au Minim. On a vite ressenti le besoin d'avoir une boutique un petit peu plus grande, de s'étaler, d'avoir des fruits et légumes. Et après, on a pas mal d'autres... épiceries dans ce style qui ont ouvert. Je pense à nos collègues voilà, du Drive Tout Nu qui sont à l'extérieur, il y a au local bio. On sent qu'il y a un vrai engouement autour du zéro déchet. Après, il y a aussi pareil, il y a les biocoop qui s'y mettent. Enfin, tout le monde commence à s'y mettre un petit peu. Mais on a quand même réussi à garder vraiment une clientèle fidèle et on a tous les jours de nouveaux clients qui viennent dans les deux boutiques. On est vraiment très contents et c'est une clientèle qui est assez hétérogène. On a vraiment de tout, des étudiants, des familles, des personnes âgées. On a vraiment de tout.
Agathe Fraîche, vous me disiez que il était important de s'arrêter un peu sur le déchet. Vous étiez surpris qu'on n'y passe pas plus de temps. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire sur ce sujet ?
Alors, bon, l'économie circulaire, c'est le principe de réutiliser des déchets, mais à la base, quand même, il y a la question de se dire pourquoi est-ce qu'on produit autant de déchets. Monsieur Lemoyne expliquait très bien que l'économie circulaire, elle date pas d'il y a si peu de temps. Il y a eu une vraie économie du jetable qui s'est mise en place avec la révolution industrielle. Et aujourd'hui, on commence à revenir à une économie plus du durable. Donc, ceci et cela, c'est très représentatif. On a des gens qui ont envie de produire moins de déchets. C'est aussi réapprendre à consommer différemment et à se poser ces questions-là. Et c'est peut-être plus aussi évident pour nous qui sommes nés dans cette ère du jetable, de l'hyperconsommation. Voilà, faut peut-être réapprendre effectivement à aller à la boulangerie avec son sac en tissu et prendre sa baguette directement dans le sac en tissu plutôt que de le mettre dans un sachet, même s'il est en papier. C'est toujours un déchet produit en moins. Donc effectivement,
Ou de se balader avec sa gourde. Aujourd'hui, ça devient assez distinctif. Je me souviens d'un jeune de Youth for Climate qui arrivait avec sa gourde comme avec un trophée.
Exactement.
Il a l'air de dire moi je résiste au plastique.
Ouais, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est des comportements nouveaux et des comportements militants alors que en fait pour nos anciens c'était des comportements tout à fait naturels et je pense qu'il faut il faut parler avec eux, il faut continuer à se dire comment est-ce qu'on faisait avant pour produire moins parce qu'on est quand même sur une planète où la population mondiale explose depuis ces dernières années.
Et, plus de milliards
et pour autant, voilà, nos ressources sont limitées. Donc, il faut réapprendre à vivre peut-être autrement et à consommer un petit peu mieux.
Alors, Agathe Fraîche, pour finir, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur l'aventure d'Envie ? Donc,
oui.
Vous nous avez dit que c'était un réseau donc, national. Il y avait à peu près une cinquantaine de sites. Vous me disiez aussi en préparant l'émission qu'il y avait 2500 salariés. Réillustrer les trois piliers de l'économie circulaire qui étaient cités par Rémi Lemoyne au début de l'émission. L'économie circulaire, c'est économique, c'est-à-dire que c'est une vraie économie. Elle est sociale et elle est environnementale.
Tout à fait. Alors, nous, au sein du réseau Envie, vraiment depuis un peu plus d'une trentaine d'années, on est né en fait avec le réseau Emmaüs et les entreprises Darty qui ont souhaité proposer une alternative justement pour ces déchets électroménagers. Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? On s'est dit on a toute une quantité d'électroménagers qui sont du déchet, on ne sait pas quoi en faire, alors qu'ils peuvent très bien avoir une valeur et il y a plein de personnes qui n'ont pas de travail. Est-ce qu'on ne peut pas construire, réfléchir quelque chose pour pouvoir donner une seconde vie à ces appareils et donner du travail à des personnes. Donc le réseau est né à ce moment-là, en 1984, partant du principe qu'on pouvait utiliser ces électroménagers usagés, les rénover, les réemployer, les nettoyer, les remettre en l'état avec des personnes.
La plupart du temps, vous y arrivez ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de machine à laver sur lesquelles vous arrachez les cheveux et puis vous finissez aussi par vous en débarrasser ?
Alors, notre objectif, c'est de réemployer 15% des appareils électroménagers qu'on collecte, sachant que bien sûr qu'une part plus importante pourrait être rénovée, mais après nous on les remet en vente, donc il faut que ce soit des appareils qui soient aussi durables pour un nouveau client. Donc c'est important de trier quand même et de proposer des appareils qui soient aussi fiables pour les personnes qui vont acheter de la deuxième main. C'est aussi une façon de mettre de la qualité sur la seconde main, parce que souvent on se dit oula, c'est un appareil d'occasion, il va bientôt s'abîmer, il va bientôt casser. Non, on a des appareils qui peuvent très bien, dès lors que c'est des appareils de qualité durer 10 ans de plus. Une pompe de vidange est cassée, bah, on la renouvelle, on la répare. L'appareil, il peut repartir très bien pour 15 ans. Donc
alors, quid du volet social ? Sur 2500 salariés dans ce réseau, il y a 2000 personnes qui sont en insertion.
Tout à fait. Donc, l'ensemble du réseau a un statut, ont des statuts d'entreprise d'insertion. Donc, ça veut dire qu'on travaille avec des personnes qui ont été à un moment donné en rupture avec l'emploi et on les accompagne dans nos entreprises vers la formation ou vers un projet professionnel durable pour qu'ils puissent retrouver aussi à la sortie de nos entreprises un projet qui puisse
Vous pouvez prendre un exemple, un prénom de quelqu'un dans votre entreprise. Vous pouvez changer le prénom si vous voulez.
Oui, alors moi j'avais travaillé auparavant, donc j'étais à Nîmes et là ça fait quelques mois que je suis à Toulouse. J'avais un collègue Rachid donc, qui était en insertion chez nous, qui n'avait pas travaillé pendant un certain temps et il est resté 2 ans en tant que salarié sur l'entreprise Envie. Et à la suite, il avait un projet de travailler comme taxi, donc il a repassé son permis, il a fait ses licences et au bout de quelques années, après une expérience en tant que salarié dans une entreprise de taxi, il s'est installé à son compte. Donc lui, il a vraiment créé son entreprise, créé son emploi avec un accompagnement que nous, on lui a fourni pour arriver à financer sa formation et à intégrer un projet qui soit durable au niveau professionnel.
Pour finir sur le volet économique, donc vous affichez donc des produits qui sont en vente jusqu'à 60% moins cher que ce qu'on peut trouver sur le marché. Ce sont des entreprises qui tournent, vous n'êtes pas obligé de vivre avec des subventions publiques.
Alors en fait, nous on a un modèle économique qui est vraiment durable, hein, c'était un objectif dès le démarrage. On est à plus de 80% de chiffre d'affaires qui est issu de notre propre vente, donc avec ces appareils électroménagers qui sont à un prix plus avantageux. Donc on va être plutôt autour de 50%. Sur l'équivalent du prix du neuf. Et le reste, ça va être du financement en subvention pour accompagner sur notre projet social, pour financer cet accompagnement social des personnes qui sont en insertion chez nous. Donc il y a vraiment un projet d'être le plus indépendant et le plus durable possible au niveau économique pour qu'on puisse fonctionner nous aussi le plus longtemps possible dans une économie où on sait que les subventions vers les associations peuvent avoir tendance à baisser.
Eh ben merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous parler de toutes ces réalités. Je rappelle donc quelques-uns des objectifs que cette loi s'est fixée. 100% de plastique recyclé en 2025 et disparition des bouteilles à usage unique en 2040. Bien d'autres choses. Je donne quelques informations pratiques par hasard pour ceux qui seraient intéressés par les entreprises que vous représentiez. Donc un site internet pour Envie, www.midi-pyrénées.envie.org, www.midi-pyrénées.envie.org, et puis la boutique Ceci et Cela, eh bien c'est au 7 rue Bauer Lormian, est-ce bien cela, Marie Guy Menot, parce
merci.
Que voilà, 7 rue Bauer Lormian,
Bauer Lormian,
pardon,
16 avenue des Minimes.
Voilà, merci beaucoup d'être venu au micro de Vivant Église ce matin. Cette émission, et je rappelle aussi le titre du livre de Rémi Lemoyne, L'économie circulaire, stratégie pour un monde durable, paru aux éditions Duno. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.